it's my turn to thank the organizer of this conference, and I think that speciality and justice are really important, and in the fact that we think always from something or from somewhere, and so it's a way for me to think about ideal theories and events or practical facts happening in the society. And this is exactly what I try to do with my presentation. I'm going to talk about French banlieue, and more especially, I start from the riots in November 2005 and try to understand what happened from that. And I will just make the introduction in English, and after I will talk in French. As you know, I'm French, and the way the thought and the language are linking, and it's easier for me to do that in French. But I will try to translate if I can, and I hope most of the people could understand me today. So, yeah, for me, what is really interesting in what's happened in France in November 2005 and the riot is the violence from one part, and from the second part, the absence of political discourse. And for me, it's something like, I don't know how to translate, insaisissable? Yeah, something you can settle or... Ungraspable, there is something ungraspable. Thanks, Daniel. Okay. Okay, so insaisissable est insaisissable aussi en anglais, c'est très intéressant, mais so yeah, and there is something which is hard actually to understand, and these events which happens in a determinate space. And I think this is really perturbating in a democratic space, and I think this is why it interrogates this democratic way. So now I'm gonna speak in French. Il est difficile de porter un discours politique et philosophique sur les banlieues qui ne soit pas un décalque des théories préexistantes que l'on viendrait imposer de l'extérieur, pour qui refuse de penser à la place des autres. C'est un exercice délicat en raison de l'absence préexistante d'une parole construite et élaborée de l'intérieur, c'est-à-dire des populations habitant cet espace déterminé. L'exemple paradigmatique de cette difficulté est incarné dans les émeutes de novembre 2005. L'irruption brutale de la violence, sans que l'on puisse identifier un fond idéologique ou des revendications politiques, a poussé nombre d'auteurs à reconstruire après coup les raisons de la révolte. Expression nihiliste d'une jeunesse désabusée, manifestation d'une population désœuvrée qui ne peut trouver d'autre recours que la violence pour exprimer un sentiment de malaise et d'injustice profonde. La réappropriation politique des instruments menant à l'émancipation et à la possibilité d'avoir une parole qui puisse compter dans l'espace public s'inscrivent dans un contexte de pouvoir et de structure politique à l'œuvre dans la société. La parole ne peut être attribuée ou donnée, elle doit être prise pour pouvoir être entendue. Comment ce microcosme que constitue la banlieue peut-il être révélateur des tensions à l'œuvre dans le champ politique? Comment les émeutes, qui s'apparentent à un moment déterminé dans l'espace et dans le temps, et par l'absence de discours explicite, un néant politique, comment les émeutes, donc, s'inscrivent-elles dans un espace politique et social qui tend à faire disparaître la parole dissidente? Les événements de novembre 2005, et plus généralement la situation des banlieues françaises, nous semblent pouvoir constituer un terrain au sens propre comme au figuré, pour repenser la question d'espace public et de participation citoyenne. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est le rapport de la ville à ses marges, et en quoi est-ce que ça peut apparaître comme une exclusion symptomatique. Donc, pour commencer, je voudrais faire un point sur ce que j'entends par banlieue. Cette présentation s'intéressera davantage à la banlieue entendue comme zone urbaine sensible, espace identifiable par ses formes architecturales, l'usage contemporain du terme de banlieue désigne les quartiers populaires à la périphérie des grandes villes. Contrairement à l'image qui peut en être usuellement donnée, elle est marquée par la coexistence d'une population aux multiples visages qui ne peut être réduite à la figure de l'immigré, du religieux ou du jeune délinquant. Les banlieues servent donc dans cette analyse d'exemple paradigmatique. Par ses habitants et par sa localisation géographique, elle se situe doublement à la marge, de la société d'une part, en regroupant majoritairement une population défavorisée économiquement, et de la ville ensuite. En recoupant un certain nombre d'inégalités et d'injustices, elles apparaissent ainsi particulièrement intéressantes pour penser le lien entre justice et spatialité. Elles permettent ainsi de créer un point d'appui pour penser des concepts plus généraux à l'œuvre dans la société, dont l'effectivité ne saurait se réduire à la seule banlieue. La banlieue est un territoire qui s'inscrit dans une historicité. Le territoire se métamorphose et sa population évolue à mesure des changements du système de production économique, de réorganisation de la société et des structures politiques à l'œuvre. Des ouvriers qui vivaient majoritairement à l'époque de la révolution industrielle jusqu'aux émeutiers de novembre 2005, la banlieue se présente comme un territoire symptomatique de l'évolution de l'organisation économique et politique de la société. Tony Negri et Jean-Marie Vincent, dans « Banlieue et ville », ont mis à jour le processus d'évolution qui marque le passage d'une population essentiellement ouvrière et rouge, entendre ici communiste ou marquée par les idéologies d'extrême gauche, à une population de précaires qui ne se constitue pas politiquement de façon marquée et unitaire. Il semble en effet que la diversité de la population présente en banlieue ne puisse se réduire et s'appréhender de façon univoque. Il y a cependant un dénominateur commun qui consisterait au regroupement dans un espace déterminé d'une population défavorisée économiquement et dont le rapport au travail est marqué par la précarité. C'est en ce sens que l'analyse de la situation en banlieue peut permettre de saisir des enjeux plus substantiels quant à la justice sociale et l'organisation sociétale dans le traitement réservé par une société pour ceux CE et ceux CEUX qui se situent à sa marge. Negri et Michel constatent ainsi, à travers l'évolution de l'organisation des moyens de production, une reconfiguration des liens sociaux et une transformation de la population des banlieues, marquée par le passage d'une figure essentiellement ouvrière à une situation où le principal acteur est l'exclu. La réorganisation capitaliste du territoire engendre une reconfiguration des rapports sociaux. Selon eux, la crise de la ville correspond à cette crise du territoire dans la réorganisation des rapports sociaux et de production. Le rapport de la ville à la banlieue est révélateur d'une segmentation du lien social, révèle une nouvelle dialectique du social et du politique. Dans cette perspective, la banlieue serait marquée par une figure de l'exclusion. L'exclu étant celui qui ne participe pas de la même façon que les autres au développement technologique ou à la production, ce qui entraîne un regard dépréciatif de la part du reste de la société. Ainsi, ils écrivent, le développement actuel du mode de production ne reconnaît pas la même dignité à tous ceux qui participent à l'organisation sociale de la production. Cette analyse permet de rendre compte d'une situation de précarisation et de marginalisation qui peut être à l'œuvre dans les banlieues. Si cela peut permettre de retracer en partie les raisons de la révolte et du sentiment d'injustice, elle ne permet pas de rendre compte de l'absence de discours, cet insaisissable qui a caractérisé les émeutes. La précarité est caractérisée dans son rapport au monde du travail et le manque ou l'absence de considération qui l'accompagne est fondée sur la participation de l'individu à la production. Pogam, dans Le salarié de la précarité, fait une distinction entre une précarité du travail et une précarité de l'emploi. La première renvoie à la logique productrice de la société industrielle, tandis que la seconde renvoie à la logique protectrice de l'État-providence. C'est ainsi, je cite, que le salarié est précaire lorsque son travail lui semble sans intérêt, mal rétribué et faiblement reconnu dans l'entreprise. Mais le salarié est également précaire lorsque son emploi est incertain et qu'il ne peut prévoir son avenir professionnel. Il y a ici un double aspect de la précarité qui s'inscrit à la fois dans une dimension économique et sociale. Guillaume Leblanc, dans « Vie ordinaire, vie précaire », montre que ces deux dimensions de la précarité professionnelle qui présuppose un double horizon du gouvernement des travailleurs, économique et social, converge vers le déficit de reconnaissance pour la première forme de précarité et vers l'incertitude pour la deuxième forme de précarité. Le déni de reconnaissance et l'incertitude sont le plus souvent mêlés dans l'expérience de la précarité comme expérience de la fragilisation de ses propriétés sociales. De cette expérience de la précarité, Guillaume Leblanc met à jour un lien entre vulnérabilité linguistique et vulnérabilité sociale, peut-être à même de rendre compte de l'absence de voix qui a caractérisé les émeutes de novembre 2005. Dans cette optique, il écrit « La fugacité de notre place au sein du discours renvoie à la fugacité de notre place au sein de la vie sociale. C'est pourquoi la prise de parole n'est jamais une simple attestation linguistique de soi, mais toujours une attestation sociale de soi, dont le corollaire implique la capacité d'être entendu par autrui et d'être ainsi reconnu. L'absence de voix qui caractériserait les précaires se manifesterait soit dans l'incapacité d'émettre un discours à partir du moment où le statut social se trouve déterminé de façon dépréciative de l'extérieur, soit dans l'incapacité d'être entendu. Les déterminations qui viennent définir les individus en situation de précarité, chômeurs, précaires, l'imposition d'une langue administrative et ses ressorts idéologiques qui attestent d'une certaine vulnérabilité sociale, tend à les déposséder de leur incapacité personnelle à se déterminer à partir de la situation vécue, et ainsi d'une vulnérabilité linguistique à se définir. Castel nomme un individu par défaut ou un individu négatif, celui dont l'existence linguistique n'est plus assurée par l'existence sociale et dont réciproquement l'existence sociale n'est plus assurée par l'existence linguistique. Ce qui prévaut alors, c'est une vulnérabilité sociale telle que l'individu n'a même plus la possibilité de parler en son nom ou d'être entendu. L'insignifiance sociale dans laquelle se trouve celui qui la prononce rend sa voix inaudible dans l'espace public par la précarisation du travail. Donc Guillaume Leblanc écrit « L'absence de voix du précaire au sens que nous avons donné antérieurement à cette expression est alors perdue de vue au profit de son absorption dans la voie libérale qui en définit les conditions de possibilité. La voix du précaire est inaudible parce que la voix du précaire est dissimulée dans le concert des voix. Elle correspond aussi à l'incapacité pour le précaire à atteindre le ton juste qui règle le concert des voix. » L'invocation de l'analyse de Negri, Michel et de Leblanc permettent de retracer un double processus. D'une part, une évolution du mode de production et du système économique qui induisent de nouveaux modes vécus de la précarité. D'autre part, une vulnérabilité sociale qui induit une vulnérabilité linguistique. Il existerait donc ainsi un processus de détermination dépréciative extérieure, qu'elle soit le produit de la société ou des institutions, qui rend difficile la prise de parole dans l'espace public et qui atteint l'individu dans sa capacité à formuler une parole qui lui est propre. L'analyse de Leblanc permet de mettre à jour une vulnérabilité linguistique couplée à une vulnérabilité sociale qui pourrait être un facteur explicatif de la violence déployée sous l'effet d'un sentiment d'injustice sans pour autant être capable de développer un discours sur ce dernier. De cette figure de l'exclusion et de la précarité, Negri et Michel déclarent « Dans cet horizon, les problèmes de l'exclusion deviennent souvent ceux de la pauvreté et ou ceux de la répression policière chaque fois qu'apparaît la résistance appelant désespérément et inévitablement une répression de plus en plus importante. C'est aux frontières de l'exclusion, surtout là où la répression est la plus forte, que l'exclusion se fait illégale et le comportement criminel. » Donc cette figure de l'exclusion constitue un premier point d'assise pour réinterroger le concept de citoyenneté et de participation à l'espace public politique. Mais il n'est pas suffisant. J'ai essayé de développer rapidement la seconde partie qui est une analyse en fait du système politique actuel et de la difficulté d'énoncer des revendications nourries à l'intérieur de ce dernier. Alors un des points marquants des émeutes de novembre 2005, c'est que les émeutiers s'en sont essentiellement pris aux institutions, aux symboles institutionnels, mairie, gymnase, MJC, bureau de poste, EDF, police, école, bibliothèque, aux entreprises ou aux symboles, quels qu'ils soient, de la richesse. Donc, il y a eu tout un travail de sociologie qui a été fait pour montrer la crise de confiance qui existait envers les institutions par les émeutiers. Alors, par rapport à cette crise de confiance et pour la replacer dans un contexte un peu plus général et politique, je voulais m'appuyer sur une analyse de Jacques Rancière et sur la distinction qu'il fait entre la police et la politique et l'analyse qu'il mène des démocraties contemporaines comme étant des démocraties marquées par le temps du consensuel, donc avec une sortie... un temps politique, finalement, et des modes de gouvernance qui se sont construits sur le rejet des idéologies qui avaient marqué le temps politique précédent, des idéologies donc qui ont amené un totalitarisme, un rejet du totalitarisme, et donc de dépasser ce temps politique pour créer un espace politique où on puisse s'exprimer, où on part du principe que chaque problème, à partir du moment où il est énoncé, peut trouver sa solution. Et ce rejet des idéologies induit deux choses. D'une part, le gouvernement de la police. Alors, qu'est-ce que c'est que la police ? C'est une logique organisationnelle de répartition des tâches qui applique un ordre hiérarchique. finalement, c'est un peu la cuisine de la société. Comment est-ce qu'on gère de l'ordre sociétal? Donc la police, c'est l'organisation de la société comme un tout divisible en parties, correspondant à des places, des fonctions, des compétences et des manières d'être bien définies. La politique, ça consiste en l'interruption de la reproduction indéfinie de la domination que constitue la police. Elle s'inscrit dans une logique égalitaire qui repose sur l'affirmation de n'importe qui. La politique est une forme dissensuelle de l'agir humain. La politique pose que les données elles-mêmes sont litigieuses, que la communauté est toujours en excès sur toute collection de groupes et d'intérêts sociaux et qu'aucun groupe ne détient la qualification pour gouverner. Selon Rancière, elle s'identifie à la part des sans-part, ce qui ne veut pas dire la part des exclus, mais l'égale capacité de n'importe qui. La police correspond au système de gouvernance des démocraties contemporaines qui sont marquées par le temps du consensus. Les démocraties consensuelles telles que les nomme Rancière correspondent à un nouveau temps de la pensée politique construit sur la critique et le rejet des idéologies révolutionnaires. Elle réside en une sortie du temps des dissensions politiques et des conflits idéologiques pour entrer dans un espace où tout problème peut être géré à partir du moment où il est énoncé. Or, dit Rancière, la rationalité politique est une rationalité conflictuelle car elle est le point de rencontre et d'affrontement entre deux processus hétérogènes, la logique égalitaire et la logique policière. La gouvernance supposée objective de la démocratie consensuelle consiste donc à réduire la politique à la police, autrement dit à la simple gestion de l'ordre social existant. Quand ceux qui n'ont pas le droit à la parole parlent, quand ceux qui sont hors champ surgissent sur la scène politique, c'est cela qui définit la logique démocratique. Lorsque la logique d'émancipation se heurte à la police, à la logique gestionnaire et à la logique dominante. Bon, je vais essayer de faire comme un résumé de ce que je voulais dire par la suite. Il semble découler de cet ordre policier, au sens entendu par Rancière, que les émeutiers de novembre se sont attaqués à cet état figé des choses, cette organisation hiérarchique de la société découlant de l'État et de représentants qui ne les représentent pas. On peut supposer que le politique, dont la logique égalitaire réaffirme la légitimité de n'importe qui, et le côté profondément agnostique du processus démocratique étant absent du décor politique, la scène s'ouvre et se déploie sous fond de violence. Les institutions, productrices d'injustice et d'inégalité par la discrimination sociale, sont essentiellement soumises à un ordre policier qui évince la politique. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette absence de revendication, il semble que les émeutiers ont en réalité attaqué leurs propres conditions. Ils ont pris pour cible ce qui les produit et ce qui les définit. Il y aurait donc une double détermination extérieure exercée sur les individus, par les institutions et par le système politique et économique dans lequel ils s'inscrivent. Si elle paraît de façon plus marquée sur la population des banlieues, en ce que cette population cumule un certain nombre d'inégalités et d'injustices sociales exercées à leur encontre, ces processus s'exercent en réalité sur chacun des individus, ce que rien n'autorise à parler. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que le contexte politique global impose un socle idéologique de domination qui ne rend pas forcément possible l'énonciation d'un discours politique et qui laisse échapper les revendications sur le mode de la violence. Ce que j'aurais aimé développer par la suite, mais je pense que là, j'ai absolument pas le temps.
30
secondes. c'est justement dans... Ok. C'est extrêmement difficile de pouvoir résumer en fait ce qui s'est passé par rapport aux émeutes de novembre 2005 et dans le processus en fait d'émancipation des individus qui peut exister par rapport à des structures de pouvoir à l'œuvre dans la société, qu'elles soient économiques ou politiques. Parce que justement, ça n'a pas été porté par un discours politique. Et c'est en ça que ça a manqué, la dénonciation d'une inégalité, a manqué de se transformer en discours et d'intégrer justement l'arène politique pour revendiquer plus d'égalité. Ça, c'est une première analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, les mouvements qui ont été menés justement pour représenter une voix dans les banlieues ont eu très peu d'impact dans l'espace public et que finalement, les politiques publiques qui ont été menées par la suite, avec le plan banlieue, etc., porté par Fadela Amara et Jean-Louis Borloo, ont manqué de prendre en compte ce facteur de l'équation essentielle qui est la population et donc, de fait, avec une structure finalement encore paternaliste de politique de la ville qui émerge de l'État et qui a manqué d'intégrer la population en fait, vivant dans les banlieues. Et ça part aussi d'une idée de l'émancipation en fait, que j'aimerais bien développer, qui repose sur Saul Alinsky, justement sur la participation en fait des populations défavorisées à saisir des moyens de leur émancipation. Et en cela, et dans cette absence de discours, il me semblait que le mouvement rap et la subculture rap consistaient un mouvement intéressant dans la volonté d'exprimer un discours qui ne peut pas être entendu par les voies habituelles de communication. Mais là encore, même chose, c'est un discours de contestation qui n'est pas forcément un discours de revendication politique. Et ce facteur politique me semble essentiel en fait pour pouvoir réaliser une émancipation qui puisse avoir un sens.
Merci Laurie. J'ai deux questions. La première est en fait une question qui est un peu sur la marge de ton papier. C'est sur la généralisabilité de tes observations sur la banlieue parisienne dans d'autres situations. Il y a quelque chose d'assez particulier qui est que, alors que dans le contexte français on parle de banlieue, donc c'est dur de traduire le mot banlieue parce que c'est pas vraiment suburb, hein. Géographiquement, ce sont des suburbs parce que elles sont à l'extérieur. Mais là, la banlieue, c'est pas la suburb de
classe moyenne. C'est ça que j'ai dit, zone urbaine sensible.
Oui. Mais alors, aux États-Unis et peut-être dans une moindre mesure au Canada, mais certainement aux États-Unis, pour parler du même genre de problématique, plutôt que de parler de suburbs, on parlerait de inner cities. Hein. Le problème de la banlieue, c'est le problème des centres d'achat de Cossu, là, dont on a parlé depuis deux jours. C'est pas un problème de zone urbaine sensible. Les zones urbaines sensibles sont au cœur. Et les gens aisés fuient le cœur. Donc, l'effet donut là, qu'on connaît bien. Là, de la vie. Alors, je me demandais si, à ton avis, la différence géographique entre les deux situations qui sont sur le plan économique et social assez similaires, des minorités racialisées, défavorisées, précaires pour les raisons que tu as invoquées, mais différenciées par le fait géographique que l'une d'entre elles est au cœur géographique de la ville, alors que les autres sont en périphérie, change quelque chose, hein? Change quelque chose. C'est peut-être j'ai l'impression que tu réfléchis là, donc peut-être que tu n'as pas eu une réponse immédiate. Oui. Mais comme on parle comme c'est le colloque sur la spatialité,
oui, hein, tout à fait.
Est-ce que ça change quelque chose que la minorité soit. Et l'autre question, une question d'information. Tu termines sur donc la culture rap et l'observation qui me semble tout à fait bien vue que c'est de la contestation et pas encore un discours politique. Si on regarde la culture rap française, c'est peut-être que je me trompe en cela, comme étant un peu en retard temporellement sur la culture rap, disons, américaine, qui est sortie des inner cities, ce qu'on constate, c'est l'immense pouvoir récupérateur du système de entertainment industrialisé, moderne. La culture rap est devenue une industrie aux États-Unis qui vaut des centaines de millions de dollars, hein, qui a créé ces milliardaires, Jay-Z, etc. Et donc, est-ce qu'il y a déjà des signes de quelque chose comme cet immense pouvoir récupérateur de la culture rap française qui distinguerait. J'ai pas l'impression que, disons, quand je me balade dans les magasins de disques parisiens, que la culture rap française est aussi présente dans les présentoirs, tu vois, des FNAC, etc., que l'est la culture rap américaine qui a été. Bon, il y a peut-être encore des sous-bassements de la culture rap américaine qui échappent à cela, mais de manière générale, je vais m'arrêter là, dans la mesure où il y a quelque chose comme un discours de contestation, il a été dans l'ensemble assez rapidement récupéré dans le cas américain. Bon, je ne sais pas si ça t'inspire des réflexions.
Par rapport à la première question et aux inner cities, c'est une très bonne question. Et à vrai dire, non, j'y ai pas encore réellement pensé parce que ce qui m'intéressait plus, et effectivement, dans ces mouvements-là, c'était un mouvement de contestation et de revendication en fait qui pouvait naître en fait de populations précaires. Et donc, bon, en ce sens-là, le rap français des années 90, qui arrivait de façon assez politique et après sa refonte justement à New York et d'un rap plus politique. Alors, c'est intéressant aussi de voir les liens qui peuvent exister entre différentes temporalités et différentes spatialités et comment est-ce que ça peut voyager finalement d'un pays à un autre dans ces formes-là de contestation. Pour les inner cities, j'ai pas de réponse particulière à apporter là-dessus. Et pour la seconde question, je pense que ça... Alors moi, je l'interpréterais différemment, mais c'est aussi la force de récupération du système capitaliste et justement dans ces structures de domination qui peuvent exister sur les individus. Et c'est comme évincer d'une certaine façon par la récupération ou en tout cas amoindrir un discours politique. Et c'est l'exemple des t-shirts de Che Guevara ou des cendriers Bob Marley qui vont être réduits à une image romantique finalement de contestation et vidés du contenu politique.
Le livre The Rebel Cell de notre ancien collègue Joe Heath et de Andrew Potter, en français ça a été traduit comment déjà?
Révolte consommée.
Révolte consommée, donc... c'est justement là-dessus, là, sur la quasi-impossibilité de...
Il y a un processus qui est intéressant par rapport à ça, et c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler particulièrement sur la banlieue, par rapport au territoire, et pour revenir justement à des thématiques sur la spatialité, c'est la concentration sur un territoire donné d'une population défavorisée, ce qui pourrait potentiellement créer une force de revendication politique forte à partir d'une organisation politique. Et ce qui est perturbant, c'est que, malgré, bon, comme les émeutes qui sont comme une violence dirigée à l'encontre de symboles institutionnels, donc de représentation de l'État, que ce soit à travers la police ou les différentes institutions, la mairie, etc. Et pourquoi est-ce que ça se passe pas? Et pourquoi est-ce que ça ne prend pas cette dimension politique qu'on pourrait attendre justement par derrière? Et c'est plus sur ce sentiment d'absence, cette grande absence finalement que j'ai voulu m'interroger à travers cette présentation.
Je vais oser, est-ce que je peux oser une remarque qui me vient. On vient de terminer une élection ici où les résultats nous ont fait penser à certains qu'on devrait réviser notre mode de scrutin pour le déterritorialiser un peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu une réflexion sur les défauts inverses qu'un système qui n'est pas territorialisé du tout? C'est-à-dire que là, s'il y avait quelque chose comme un système territorial, on pourrait imaginer que des gens qui sont géographiquement concentrés puissent avoir une voix, des représentants, alors que si on est lié à la proportionnelle, la voix de ces gens qui sont quand même minoritaires a tendance à se fondre dans la masse. Une réflexion comme ça que...
Frédéric Dejean, CETUM, Université de Montréal. Je vais encore faire une remarque de géographe. Juste sur ce qu'a dit Daniel Weinstock sur la question de la spatialité. Quand tu parlais, je pensais à un livre d'un géographe qui s'appelle Mustapha Diketch, qui était à Los Angeles avec Edward Soya, qui a fait un livre qui s'appelle Badlands of the Republic, où il analyse justement où il parle, lui, de spatialité de l'injustice et d'injustice de la spatialité, où il travaille justement sur la construction, le processus social de construction d'une injustice et le résultat ou la forme géographique de l'injustice que ça peut prendre. Donc je pense que ça pourra t'intéresser. J'avais juste deux questions. C'était à propos du livre de Tony Negri. Je me demandais ce qui leur permettait de dire qu'on était passé d'une... la banlieue comme territoire de classe ouvrière à une zone d'exclus, sachant que finalement, on sait aussi que finalement la banlieue reste encore une classe ouvrière. Alors, plus une classe ouvrière aussi bien organisée par des structures d'encadrement comme le Parti communiste, comme ce fut longtemps, mais plutôt une classe ouvrière qui a un petit peu explosé. Et du coup, on a l'impression que cette classe ouvrière-là qui existe et qui a justement des questions d'injustice spatiale, notamment pour l'accès au travail. Quand vous habitez en Seine-Saint-Denis et que vous êtes femme de ménage et que vous devez travailler à 4h du matin dans le quartier de la Défense et qu'il n'y a plus de transport en commun, là, il y a une vraie question d'injustice spatiale qui est liée au transport et qui est liée aux mobilités, et c'est vraiment très très fort. L'autre chose, c'était sur laquelle... Je trouvais que tu étais un peu dur avec les institutions. Parce que... Alors c'est juste une expérience personnelle, c'est que j'ai enseigné alors juste un trimestre, mais en banlieue parisienne, l'institution scolaire. Alors peut-être que on va dire ce qui est en haut, l'institution scolaire, c'est peut-être dans une logique, peut-être, je sais pas, d'institution répressive, mais en tout cas, le fonctionnement de l'institution scolaire à l'échelon local, elle est quand même loin d'être dans cette logique-là. C'était juste. Juste ça. Et dernière remarque, on a l'impression, enfin en France, il y a à propos de la banlieue une espèce de storytelling. On a construit un récit. Le storytelling. On a construit un récit à propos des banlieues. Depuis les banlieues rouges de la classe ouvrière jusqu'aux banlieues aujourd'hui, peut-être en oubliant qu'il y avait quand même des moments de rupture extrêmement forts. Au point que la politique de la ville qui a été mise en place à la fin des années 80 à la suite d'émeutes justement en banlieue lyonnaise, on parle de politique de la ville alors qu'en fait ça ne concerne qu'une toute petite portion de territoire. Et le paradoxe juste que je, je voudrais souligner, ce qui est paradoxal avec les banlieues, c'est qu'effectivement, on est en fait dans une forme de marginalité sociale et spatiale, mais qui est centrale dans le discours politique. Et je trouve que là, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que les banlieues, et c'est vrai, c'est socialement, sont des populations marginalisées, mais en même temps, elles sont centrales dans le discours politique. Il n'y a pas une élection où l'enjeu, c'est pas la question de la politique de les villes qui se réduit à la question des banlieues. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Y a plusieurs choses. Alors du coup, je vais relire un peu les questions. Mais la première question, c'était qu'est-ce qui permettait à Tony Negri de parler du passage d'un territoire d'une classe ouvrière C'est ça, hein?
Oui.
D'accord. Et le fait que, justement, la banlieue reste une classe ouvrière explosée et qui existe. D'accord. Je pense que c'était surtout la concentration, en fait, qui existait à l'époque de la révolution industrielle et le fait... Il y a des politiques en fait, qui avaient été menées par les entreprises pour avoir des logements décents mais à bas prix qui permettaient quelque part de justifier le salaire finalement des ouvriers qui était comme de la donnée de la main-d'œuvre accessible grâce à ce regroupement en banlieue. Et d'un autre côté, une organisation ouvrière qui était plus forte qu'aujourd'hui à un niveau politique par le truchement des syndicats, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, cette espèce de, peut-être pas communauté, mais en tout cas majorité politisée et portée en fait par des revendications politiques par rapport au travail. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que j'étais partie sur l'analyse de Rancière, en fait, de montrer comment est-ce qu'on était sorti du temps des idéologies pour passer à un mode de gouvernance davantage basé sur le consensus, et qui est un mouvement qui se retrouve dans chacun des individus d'une société. Et ce qui m'intéressait aussi de montrer à travers cet exemple de la banlieue, c'était la façon dont on pouvait être normé de l'extérieur par des logiques, soit politiques ou économiques, qui vont influencer notre façon de penser, et que ce processus de dépolitisation... Mais encore, c'est un mot que j'aime pas employer, parce que je pense pas qu'il y a de dépolitisation comme de la jeunesse ou peu importe, mais il y a un rejet de la politique politicienne, donc incarné par l'ordre de la police, différent de ce que c'est que la politique. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de conscience politique, en tout cas, dans la population d'un pays. Donc ça, c'était le premier point. Et je pense, donc, pour répondre plus explicitement à ta question, ce qui leur permettait de dire ça, c'était cette analyse, en fait, des banlieues comme recoupement d'une population ouvrière. Après, autre point, la banlieue reste une classe ouvrière explosée qui existe. Je suis pas sûre, en fait. Enfin, tout dépend après ce que tu entends par ouvrier. Peut-être qu'il y a une définition élargie, mais c'est pour ça aussi que je parlais du mode de révolution et de transformation économique à l'œuvre dans la société, avec des nouveaux secteurs d'activité, des nouveaux secteurs de travail, et donc, de fait, une population qui n'est plus essentiellement... ouvrière, justement.
Oui, on voit par exemple aux travaux de Stéphane Bouy et Michel Cadou sur la classe ouvrière, une petite trentaine, mais justement, il raconte que.
Peut-être prendre le micro pour.
Au début de chaque cours, il commence par demander à ses étudiants est-ce que vous connaissez le nombre d'ouvriers en France ? Et les étudiants sont incapables de citer, parce que l'ouvrier, c'est pas forcément celui sur sa machine, il y a un prolétariat du service.
C'est génial que tu poses cette question-là, parce que justement, c'était... j'ai parlé de l'analyse de Negri et de Michel, et je ne sais pas s'ils sont très connus ici, mais effectivement, ça s'inscrit plutôt dans le mouvement marxiste, post-marxiste, et avec cette évolution de la notion de prolétaire. Et quand j'ai commencé mon exposé en disant qu'il est difficile d'avoir un discours sur la banlieue qui ne sont pas des idéologies qui sont imposées de l'extérieur, je pensais à cette notion-là de prolétaire. Parce que dans leur analyse, et j'en ai pas parlé là, mais dans leur analyse, ils désignent la population des banlieues comme étant prolétaire. Alors avec cette reconception en fait, de la notion de prolétaire qui a été aussi amorcée par tout le mouvement de la communisation développée dans les années 70 avec une repensée en fait, du mouvement communiste marxiste, et qui comprend finalement beaucoup de personnes, qui comprend les étudiants, bon, les ouvriers, mais alors il y en a moins maintenant, donc il faut quand même bien reposer un truc pour la lutte des classes, et donc de fait, on étend un peu ça, et ils désignaient dans leur papier les populations des banlieues comme étant prolétaires. Et ce qui me dérangeait, c'est comment est-ce qu'on peut imposer de l'extérieur une détermination pour penser finalement une population, alors que cette population elle-même ne se définit pas selon ces termes. Alors c'est pour ça, comme tu me disais, que c'est encore une classe ouvrière explosée. Je me dis, mais qu'est-ce que tu entends par ouvrier ? Parce que est-ce que la femme de ménage, c'est une ouvrière ? Je sais pas, hein, tu vois, je me demande justement quelle est cette conception et est-ce qu'on peut nous poser de l'extérieur en tant qu'intellectuel ou peu importe des catégories sur des personnes qui se déterminent pas elles-mêmes de cette façon-là. Mais moi, ouais, et ça me dérange parce que je nourris une pensée de l'émancipation qui doit venir de l'intérieur justement, et c'est ça qui me perturbe d'autant plus dans cette conception de l'émancipation que je développe, l'absence de discours qui peut y avoir, et enfin, c'est un peu ça aussi. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question. Ouais, donc tu me trouvais dure en fait envers les institutions et très critique, c'est ça ? Ok. Bah alors là, c'est compliqué aussi. Mais par exemple, tu parlais de l'école. Et il y a quelque chose qui me dérange profondément dans l'école, et c'est la vision, bon, le formatage. Donc l'école est censée nous former, mais elle est aussi une institution du formatage. Et c'est dans ce sens-là, peut-être, que j'étais assez critique envers les institutions. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux institutions, et peut-être pour revenir, moi, à ma conception personnelle, mais à ce qui se passe dans les banlieues, notamment par la population, en fait, d'immigrés, d'origine immigrée, en tout cas, qui peut y être présente, il y a tout un rapport par rapport à l'histoire qui est extrêmement dérangeant. Et là, on va parler de plus de politique nationale, mais de la position, en fait, de l'histoire par rapport à la colonisation, ou par rapport à la guerre d'Algérie, ou par rapport à... Bon, avec une certaine population qui est présente, en fait, dans les classes d'origine immigrée, et une vision de l'histoire qui est donnée et qui révèle toujours, finalement, le côté du vainqueur. Et là-dessus, je m'appuierai sur Charles Taylor, dans Multiculturalisme, Différence et Démocratie, qui pense, finalement, à une refonte des programmes scolaires en prenant en compte la diversité de la population qui est présente... qui est présente en cours. Enfin, donc bon, là on parlait de l'école, mais c'est aussi la façon dont les institutions incarnent une certaine forme de pouvoir et aussi une certaine forme de domination à l'œuvre dans la société. Et c'est peut-être pour ça que je suis dure envers les institutions, parce qu'elles sont essentiellement conservatrices.
Je me demande, en ce qui concerne les banlieues à Paris, je me demande s'il n'y a pas une certaine application de la approche d'Ernesto Laclau, entre autres, où les lignes de contestation étaient déplacées de la classe jusqu'à la terrine de race, surtout musulmane, anti-musulmane. Et puis il y a une bataille culturelle hégémonique autour de cet déplacement.
Okay. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Donc, un déplacement par rapport...
Oui.
D'accord, d'une façon générale, en fait, dans la société, c'est ça ?
Non. En ce qui concerne les banlieues, la bataille, la conception, les batailles politiques, culturelles, à propos de banlieues à Paris.
Ouais, bah, je suis d'accord avec ça. Enfin, c'est ce qu'a démontré les récents débats en France, que ce soit celui sur l'identité nationale ou celui sur la laïcité, oui. qui est en fait une stigmatisation des populations musulmanes, c'est ça ? Oui. Bah, alors là, je m'appuie encore sur Rancière, mais c'est ce qu'il appelle la haine de la démocratie. Et justement, dans ces... démocratie consensuelle, donc marquée par le temps du consensus, il y a quand même un espèce d'idéal qui tend vers l'unité. Et l'unité, c'est aussi ce qui implique un certain rejet de la différence. Et je pense que les politiques actuelles, bon, aussi en France, c'est un gouvernement de droite, voire d'extrême droite par les idées, en tout cas les débats qui sont portés dans l'espace public. Et effectivement, je pense que ça correspond donc peut-être... un double niveau. Donc d'une part, c'est ce temps du consensus caractéristique en fait de nos démocraties contemporaines qui amène un espèce de fantasme de l'unité ou en tout cas de l'accord sur lequel on peut tomber, alors que la démocratie, c'est exactement le contraire. C'est une histoire de lutte et de combat interne et qui est tout le temps un mouvement en fait pour l'égalité qui apparaît dans des communautés subjectives éphémères qui, à un moment de l'histoire, vont pouvoir porter ce discours-là de lutte vers plus d'égalité. Et donc ça, c'est d'une part le temps du consensus, donc je m'appuie sur l'analyse de Rancière, et d'autre part, en fait peut-être plus voilà, d'actualité ou de politique politicienne, mais qui est l'instrumentalisation aussi d'une certaine peur par le gouvernement français pour gagner des voix dans une perspective assez démagogue.
Oui, puis du point de vue de Leclerc et d'autres, l'autre entre principal, et je suppose que ce soit en accord, et de retrouver les liens, de relier, de restructure, suture, c'est la phrase de lui, suture le discours de race avec ça de classe.
Mm.
Très bien.
Merci.